Voilà. Je voudrais vous parler d'une situation concrète pour essayer de vous faire comprendre l'aujourd'hui de l'appel de Dieu. Je connais un homme, c'est un brave homme, il a un beau métier, il rend service aux autres, il est dans le paramédical, donc il a longtemps visité les malades à la maison, il les a soignés. Maintenant, pour des raisons de disponibilité, d'avoir un horaire plus réduit, plus équilibré pour sa famille, et pour pouvoir faire un autre métier à côté, il a choisi de faire son métier d'infirmier dans une maison de retraite. Donc il a des horaires, et de temps en temps, il y a rarement des imprévus. Et un jour, je le croisais et il me dit « Demandez à Dieu un signe pour moi. » Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il a une petite fille qui est comme ça, une gentille épouse, une petite fille de cet âge-là, 6-7 ans, extrêmement intelligente, très éveillée, qui depuis au moins 4 ans et demi, depuis l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, demande à connaître Jésus. Alors, cet homme m'a déjà dit plusieurs fois, ma fille voudrait connaître Jésus, connaître Jésus. J'ai donné un DVD sur Jésus, j'ai donné une petite Bible pour enfants, etc. Et je n'ai pas eu d'écho. Est-ce que les parents ont regardé avec, ont lu avec ? Pas eu d'écho. Et dernièrement, je passais là dans le quartier et la personne me voit, et elle me fait signe comme ça. Je parlais avec quelqu'un d'autre, lui avec deux autres. Demandez un signe pour moi, pour que je sache si Dieu existe. Priez pour moi pour qu'il y ait un signe qui atteste la réalité de Dieu et qu'il aille dans le sens de Dieu. Vous savez que Jésus a dit à plusieurs reprises à la génération qui l'entourait, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Hein? Et donc qu'est-ce qui s'était passé avec Jonas ? Jonas, c'était un homme qui a été appelé par Dieu à parler aux Ninivites, à des païens, de repentance, de conversion. Il était juif et il n'avait pas envie de le faire. Il partait vers Tarsis, c'est Tarragone en Espagne. Et dans le bateau, ça s'est mal passé. Le bateau est pris dans une tempête, il allait couler. Tous les marins étaient des païens, mais ils ont dit... Ce bonhomme-là qui est au fond du bateau a un problème avec son Dieu, c'est à cause de ça qu'on va couler. Ils ont été le chercher, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe entre ton Dieu et toi ? Et Jonas a dit oui, parce que je ne fais pas ce que mon Dieu demande, je dois aller à Ninive et je suis parti dans votre bateau, alors c'est ma faute, si vous voulez ne pas périr, jetez-moi à la mer. Jetez-moi à la mer. Eh bien, ils l'ont jeté à la mer. Et il a été avalé par un gros poisson. Vous savez, dans la Méditerranée, il y a des cachalots. Hein? Il y a des cachalots, ça se cache dans l'eau. Hein? Ça se cache. Et forcément, c'est dans un cachalot que se retrouve notre Jonas. Et il meurt. Il meurt. Si, il y a des textes, un texte qui le montre. Et pratiquement, quand il est rejeté sur la mer, il est vivant. Vous savez, il y a des faits de résurrection chez Élisée, etc. Chez Élie aussi, il y en a d'autres, hein, et dans l'Ancien Testament. Et donc, il est sur la plage, et là, clairement, il a eu un signe de Dieu, il est parti. Il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Ça veut dire que pour la génération de Jésus, le premier signe que vous avez, c'est que vous n'obéissez pas à Dieu. Le deuxième signe, vous obstinez et vous provoquez votre perte. Vous provoquez des misères sur votre nation, sur vos peuples, vos familles. Comme le bateau qui coule. Et puis après, l'autre signe, c'est que vous n'estimez pas Dieu à sa juste valeur, vous n'aimez pas lui obéir, mais vous estimez qu'il peut vous faire mourir. Jetez-moi à l'eau. Donc vous estimez que Dieu est méchant, Dieu est plein de colère, Et Dieu ne peut faire qu'une chose, c'est me punir. Vous voyez l'image, la conception de Dieu qu'a un homme spontanément. C'est de faire le contraire de ce que Dieu demande. Ensuite, c'est de se trouver dans une situation complètement infernale, difficile. Et c'est de réclamer à Dieu une sanction. Mais là-dedans, on ne perçoit pas que Dieu a voulu sauver l'homme, a de la miséricorde. On ne perçoit pas la véritable nature et le véritable cœur de Dieu. Et le véritable cœur de Dieu, c'était que tout Ninive soit sauvé. Ça, Jonas n'a pas voulu l'entendre. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans notre société qui ne veulent pas entendre que Dieu ait de la miséricorde sur la société européenne. Ils ne veulent pas l'entendre. Comme des bourriques et des mulets qui ont un mort là dans les psaumes, hein, ils ne veulent pas. Le cavalier qui les conduit, c'est Satan, ou leur péché. Et c'est clair que Jonas, quand il a été en 720 à Ninive, prêcher, Ninive était une grosse ville dirigée par le commerce, le vol, comme toutes les grandes nations d'aujourd'hui, hein, le Luxembourg vit sur l'argent volé partout, hein, par toutes les combines d'argent, mais New York aussi, il était à telle chose. C'est clair, Ninive était une ville de bandits, de voleurs, de commerçants et de guerre. Et pratiquement, Dieu avait un jugement, mais aussi un plan de miséricorde. Il lui fallait Jonas, qui était enseigné dans la Torah, pour aller le dire. En fait, quand il est arrivé en 720, le roi de Babylone partait avec son armée pour détruire Ninive. À plusieurs centaines de kilomètres, il montait, et à un moment donné, au miracle, le roi de Babylone a arrêté sa progression vers Ninive et est retourné à Babylone. Et pendant 100 ans, encore Ninive a échappé au carnage. C'est seulement vers l'an 620 que Babylone a attaqué Ninive et l'a pris. Ninive était la capitale de ce qu'on appelle la Syrie, n'est-ce pas? La Syrie, la Grande Syrie, donc les deux tiers de l'Irak et la Syrie actuelle. Et pratiquement, les fils de l'empereur de Babylone s'étaient révoltés, avaient fait un coup d'État et prenaient le pouvoir. Et donc, le roi de Babylone devait retourner pour massacrer ses fils et mater la rébellion. Et donc, il n'est jamais reparti vers Ninive. C'est au moment où Jonas a prêché, et au moment où Ninive a accepté la parole de Dieu, il s'est repenti, que Dieu a épargné la ruine de Ninive pour 100 ans. Ça, c'est une image historique réelle. Ça s'est passé comme ça. Nous ne sommes pas dans la fabulation, les histoires de Saint-Nicolas ou de Père Noël, ça s'est passé historiquement comme ça. Alors aujourd'hui, nous avons souvent une population, telle que cet homme, qui apparemment est brave comme tout le monde, pas plus ni moins, qui ne veut pas connaître la miséricorde de Dieu pour l'Europe, pour sa famille, mais qui veut un signe de Dieu. Il n'aura que celui de Jonas, celui de Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà. Ça, c'était en été, durant l'été 2018, que cet homme s'est adressé à moi. Ma réaction, c'est de dire, Seigneur, je vais d'abord prier et réfléchir à ce qui m'a été dit. Je pense que la réaction est guidée par ceci. Première chose, quand cet homme me voit, il est dérangé. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne fait pas pour sa fille. Il y a quelque chose qu'il ne fait pas comme il devrait le faire. Quand je ne suis pas là, tout est bien. Mais dès que j'apparais, il y a quelque chose qui chatouille sa conscience. Si le chrétien ne sert qu'à ça, c'est déjà beaucoup. Mais faut-il qu'il soit réellement chrétien et qu'il soit là avec le Christ? Parce qu'un chrétien sans le Christ existe aussi. Il faut que le chrétien soit avec le Christ, partout où il passe. Qu'il vive de Christ, de Jésus-Christ, et c'est la présence du Christ dans le chrétien qui dérange. C'est la présence du Christ qui interpelle la personne. Alors, la petite fille, elle, cherche toujours Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Mais elle ne reçoit rien de ses parents, et en plus, elle va dans une école où on ne parle jamais de Jésus-Christ, une école classique, pas loin d'ici, une école primaire, où on ne répond pas à ses aspirations profondes, qu'elle l'a exprimées à sa maman, qu'elle l'a exprimées à son papa. Et la maman, un jour, lorsque je passais, a demandé à l'enfant, devant moi, « Est-ce que tu te plais bien dans cette école-là, à tel endroit ?» Pas loin d'ici. Et l'enfant a dit clairement, l'enfant à 7 ans, non. C'était à la mi-septembre 2018. La nature de cette situation est profonde et se répète énormément en Gaume. Le pire, c'est quand l'enfant n'a rien trouvé, et que monsieur le curé propose quelques séances de catéchisme pour être baptisé à 8, 9, 10 ans et recevoir la communion et la confirmation. Le pire, c'est parce que l'enfant n'y trouvera rien, il va se révolter après parce qu'il n'y aura rien trouvé. Il a été trompé. Il va devenir rebelle. Le pire, c'est de proposer une fausse solution. Et comme les parents, les grands-parents ont l'art de laisser faire et de ne pas se prononcer, il se passe que l'enfant passe dans la filière habituelle et il en ressort déçu, vide, révolté, aigri. Parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'au fond de son cœur il cherchait. Et que tous ceux qui l'entouraient ne lui ont pas donné avec courage la bonne piste pour trouver ce que son âme réclamait. Cette petite fille, j'en ai connu beaucoup. J'ai fait des mouvements de patro. J'avais 99 enfants du village ici et ici, pendant des années. Il y avait 7-8 groupes de jeunes. J'avais monté tout ça moi-même. J'avais formé les dirigeants moi-même. Et je voulais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Le problème, c'est que quand je parlais du Seigneur Jésus, j'avais parents et instituteurs qui faisaient tout le contraire. Tout le contraire. Qu'est-ce qu'il en est resté? Plus tard, quand je m'apprêtais à être prêtre, je faisais des études de prêtre, et bien pratiquement j'ai créé un mouvement pour des jeunes de 18 à 30 ans. C'est un groupe énorme de jeunes qui venaient d'un peu partout avec le sac à dos. Un week-end par mois, mais parfois d'autres venaient entre les week-ends. Il y avait 60, 70 jeunes qui dormaient dans la maison, qui passaient là. On faisait des carrefours, des prières, on faisait des lectures bibliques. Mais au fur et à mesure du temps, beaucoup ne voulaient plus lire la Bible. Il n'y avait qu'une minorité qui voulait lire la Bible et prier. Les autres étaient contents de faire partie des partages et d'avoir des amis, de sortir du carcan de leur école, de leurs parents, de trouver une saine, une liberté, parfois pas saine du tout, entre garçons et filles, derrière mon dos. Mais le groupe était là. J'ai connu beaucoup de suicides dans ce groupe. Tous des jeunes qui n'ont pas été vers Dieu. Des suicides dramatiques. De jeunes qui avaient un bel avenir devant eux. J'ai connu des gens là-dedans qui ont eu des bonnes carrières et qui sont bourgeoisement bien installés. Apparemment, ils ont réussi. Mais moi, je sens leur vide, c'est un gouffre sous leurs pieds. Ils avancent en âge et il n'y a rien. C'est le vide sous leurs pieds. Et puis, il y en a, ça c'est la majorité, eh bien, ils aiment d'aller aux fêtes, aux matchs de football, aux réunions, Et quelques Stella, quelques Jupiler, quelques Orval font le bonheur d'une âme qui n'a pas trouvé l'essentiel. Et après quelques temps, après avoir bu, fumé, on a pris l'habitude de se séparer, de changer de conjoint, et on se trouve mort avant 60 ans, pour plus de la moitié. Plus de la moitié sont morts avant l'âge de 60 ans. J'en ai 70. Ces jeunes-là, je les avais, ils avaient 10-15 ans de moins que moi. Plus de la moitié sont déjà morts. Mais que se passe-t-il donc ici, dans cette Europe, où la mort spirituelle et la mort physique règnent? Que se passe-t-il? Mais la mort est le fruit du péché. Clairement, c'est mis dans Romains chapitre 5, le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Clairement, la Bible avait raison. Alors moi, je me retrouve dans la responsabilité de passer dans ce quartier, de revoir ce monsieur et cette dame et cette petite fille. Moi qui ai 70 ans, je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre, peut-être 20, peut-être 2, j'en sais rien. J'ai quand même la responsabilité d'être là pour le Seigneur puisque je passe sur leur chemin. Comment je dois voir et comprendre les choses ? Je comprends comme l'attitude de Jonas, évidemment. Cet enfant a reçu un appel profond, durable. Et cet enfant veut une vraie expérience de la personne de Jésus et de sa parole. Cet enfant veut un choix pour sa vie. Pourquoi ? Parce que dans Ecclésiaste au chapitre 3, il est mis clairement que Dieu a dessiné dans le cœur de l'homme un désir d'éternité. Dans Ecclésiaste chapitre 3, c'est donc une œuvre de Dieu qui est dans le cœur de cet enfant. Donc le signe est donné à ce papa qui me réclame un signe extraordinaire. Le signe est donné. Le signe est là dans le cœur de l'enfant. Et il le piétine. Cet enfant subit des meurtrissures et montre déjà par son visage qu'il n'aime pas l'école où il est. Il n'aime pas la vie, comment il la vit. Il ne trouve pas ce qu'il cherche. Cet enfant montre déjà. Et ce que moi je vois, c'est que cet enfant va avoir une forte personnalité, cette petite fille va avoir une forte personnalité. Son manque qui est en elle, qui va s'installer, va se traduire soit par une révolte, non conformiste, on la trouvera avec des boucles d'oreilles, des tatouages, des habits abracadabrants. On la trouvera à l'autre bout du monde, faire le tour, avec un copain, puis un autre copain, puis un troisième copain, etc. Dans une expérience non conformiste, parce que le monde tel qu'elle l'a fréquenté ne lui a jamais présenté le vrai message. Et qu'elle est dans une révolte contre ce monde qui lui disait « je t'aime ». Mais ce monde qui l'entoure l'a-t-il vraiment aimé? Ce manque peut provoquer aussi autre chose. C'est une révolte à la méthode passive. Je ne suis pas actif, je ne fais pas le tour du monde, je ne m'habille pas autrement, je ne fais pas des scarifications, je ne fais pas des trucs pour faire voir aux autres que je suis en révolte. Non mais, je fais une révolte passive. Je reste comme une larve chez papa et maman jusqu'à 35 ans, et je ne fais rien. Je me laisse vivre. Je profite d'eux jusqu'au bout, et je les fatigue par ma présence. Pourquoi ? Parce que mon cœur est révolté et n'aime plus mes parents, n'aime plus ma famille. Et je prends une attitude d'opposition, de négativisme, à la douce, insidieuse et pernicieuse. Ce parasitisme familial est aussi une méthode de réponse au manque de vérité qui avait entouré l'enfant. La famille voudrait bien éviter tout ça, ne plus connaître ses problèmes, ne plus étouffer, mais elle ne voit pas où est né le problème. Elle ne voit pas que quand il y avait une vraie question, il fallait y répondre. Elle ne voit pas que leur problème est son péché. Alors, moi je dis ceci. Quand un enfant veut chercher Jésus, veut chercher la vérité, et qu'un adulte ne va pas réellement avec un cœur d'enfant dans le même sens que l'enfant, bien moi je dis qu'il est impertinent. Il est impertinent. Il s'oppose aux besoins de Jésus. Il s'oppose aux besoins de vérité qu'il y a chez l'enfant. Il s'oppose aux besoins de la réalité divine. La réalité divine dont l'enfant a besoin pour remplir son cœur, son âme, et pour être heureux, pour se lever, pour louer le Seigneur au matin, au soir et à midi. C'est une impertinence évidente de la part du père et de la mère. Et c'est une impertinence qui nie le besoin spirituel de la petite. Et ce besoin spirituel, ce n'est pas une caractéristique psychologique de l'enfant. Ce n'est pas un besoin psychologique ou social, parce que monsieur le curé lui a dit « tu dois croire en Jésus » ou le pasteur qui est passé qui lui a dit, ou un copain qui lui a dit. Non, c'est l'enfant qui lui-même le dit qu'il a besoin de Jésus. Ce n'est venu de nulle part, apparemment. Si, c'est venu de Dieu. Mais on va soupçonner tel copain qui aurait influencé mon enfant, ou tel adulte, ou telle émission. On va soupçonner, on va chercher des raisons pour savoir pourquoi mon enfant n'est pas comme les autres. Manger, dormir, pipi, caca. Et puis boire une bonne chope, sortir, etc. Pourquoi mon enfant n'est pas comme les autres? Pourquoi? Il y a quelque chose. Parce qu'on ne veut pas voir que Dieu veut se rendre maître de la vie de cet enfant. Donc on fait une opposition majeure au Saint-Esprit. On fait une opposition majeure au Saint-Esprit. Prenons Matthieu, chapitre 11, verset 25. Nous sommes donc en Europe en révolte contre Dieu d'une manière volontaire, effrontée, qui provoque le mal dans l'âme des enfants et des générations à venir. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, je vais dire les parents en général, les écoles, etc., la société, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut se révéler à cet enfant. Et on voit bien, ici, au verset 25, tu les as révélés aux enfants. Il est clair que Jésus affirme que Dieu se révèle aux enfants. Dans ce cas-ci, l'endurcissement progressif habituel des parents s'oppose à l'action de révélation de Jésus-Christ. Ça devient un endurcissement, une incrédulité contre Dieu. Les parents sont animés de préoccupations impures, télévision, etc., relations sexuelles, veux-tu en voilà, ou matériels, de plus en plus de confort, plus en plus d'acquisitions, etc. Tout ça va ensemble pour faire le petit bonheur sur Terre pour un certain temps. Mais, ces parents sont accompagnés aussi d'un esprit de frustration. Il y a toujours des choses qui manquent. Il faut toujours plus d'argent. Il faut toujours plus de recherche du contentement de soi-même. Il faut qu'on puisse dire, il a une belle voiture, et ils ont de belles pelouses, ils ont de belles maisons, ils ont des beaux diplômes, ils ont de belles situations. Il faut que les parents puissent sortir en étant fiers et exposer la réussite dans leur progéniture, ce qu'on appelle réussite. Pourquoi ? Parce que derrière ça, chez les parents, il y a un esprit de frustration. Je ne veux pas paraître stupide d'avoir raté ma vie et de ne pas avoir amené mes enfants à quelque chose. Il y a un esprit de frustration. Il y a un esprit d'humiliation qu'on ne veut pas. Je ne veux pas être humilié à travers mes enfants parce qu'ils ne sont arrivés à rien. Donc, finalement, ce qui est le but de la vie, c'est le contentement de soi-même. Le contentement de soi-même, c'est qu'on confond avec le bonheur de nos enfants. Le contentement de son ego, qu'on confond largement avec le bonheur des enfants. Le bonheur des enfants n'est pas la projection de mon besoin de contentement. Ça, c'est clair. Dieu l'a mis clairement dans mon âme, pour mes enfants. Mais en tout cas, pour la plupart, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la question de Dieu est banalisée et il faut s'arranger pour que l'enfant l'oublie. On lui met des pots de bananes, on lui met des cadeaux aux anniversaires, on lui fait faire des petits voyages, des excursions avec l'école, etc., 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 du basket, du volley, etc., du scoutisme et tout, pour que la question se dilue, pour que la question de Dieu soit banalisée. Et évidemment, il n'est pas très important d'être là à l'église le dimanche avec les enfants. Ils sont libres. Mais non, ils ne sont pas libres. Ils sont entraînés loin de Dieu, par des forces. Si nous étions si libres que ça, nous, sur la Terre, la force de gravitation de la Terre, imaginez qu'elle diminue de moitié. Sur la Terre, il y a deux forces. Il y a la force centrifuge, et la force centripète. Elle est calculée de manière à ce que moi, quand je marche, je ne m'écrase pas à terre, je ne sois pas attiré, je ne rentre pas sous terre, ou que je sois projeté à 10 000 km et que j'explose. C'est calculé de manière savante par Dieu. Les deux forces sont calculées pour que je puisse vivre sur terre. Pour l'arbre, pour le chat, pour le poisson, pour l'eau, etc. Donc, il y a un équilibre entre les forces. Ce grand ingénieur de la vie a créé un équilibre. Et moi, ce que je fais avec l'enfant, ce que nous faisons, c'est que nous voulons que la force centrifuge soit beaucoup plus importante que la force centripète. Que la force de tout ce qui l'écarte de Dieu soit plus forte que la force qui l'amène vers Dieu. Parce que dans notre âme, nous ne sommes pas des ingénieurs de sainteté. Nous ne sommes pas des ingénieurs de sagesse. Nous avons trop de vanité personnelle pour chercher la sagesse de Dieu. Alors, je reprends ce fait. Il y a une petite fille qui recherche Dieu. Regardons Matthieu chapitre 13, versets 15 à 17. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 15 à 17, c'est un verset, bien sûr, qui correspond à Israël, au temps où Jésus est là, au temps où Ésaïe était déjà là. On trouve ce verset au chapitre 6 d'Ésaïe. Mais aujourd'hui, il est possible que ce soit aussi notre réalité. Matthieu, chapitre 13, verset 14. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se guérissent et que je ne les guérisse.
Qu'ils ne se convertissent.
Oui. En attendant, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, ils ont fermé leurs yeux. Fermer les oreilles, de peur d'entendre, de comprendre. Ça fait peur de laisser la place à Dieu et que nos enfants soient réellement enseignés et instruits dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Ça fait peur de ne plus appartenir à soi-même et de se donner à Dieu. C'est typique et c'est propre à l'humain. Et on a peur que Dieu nous guérisse. On a de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur. On a peur de comprendre vraiment les choses en profondeur. comme Dieu le veut, avec notre cœur. Non, on veut agir avec notre raison, notre suffisance, notre vanité. Vous voyez, c'est un phénomène qui me heurte beaucoup parce que les petits, cette petite fille, je vais encore la rencontrer. Et comme beaucoup que j'ai rencontrés, que j'ai eu ou pas trop, au mouvement, à 45, 50 ans, ils sont morts. Je les ai vus, ils étaient déglingués, ils étaient mal, sous cachet, etc. Ils allaient d'hôpital à hôpital, ils vivaient mal, ils n'avaient pas trouvé la lumière. Ils n'avaient pas trouvé. Moi, j'avais fait pourtant beaucoup de choses pour eux. Mais les autres avaient tout gradé, tout décapé au fur et à mesure derrière moi. Alors pratiquement, je me dis, mais c'est une société de destruction spirituelle. C'est une société de destruction spirituelle qui s'est construite. Aujourd'hui encore, à 70 ans, je vois des enfants qui ont un avenir menacé par ce type de société, d'anti-spiritualité, alors que Dieu a fait de ses enfants des êtres merveilleux avec des promesses. Des promesses. Ils ont un cœur pour rencontrer Dieu, pour que Jésus se révèle à eux. Alors quand on distribue, des petits papiers avec un évangile, et que tout d'un coup on a quelqu'un qui nous répond, et que venez, passez, venez me voir, ou qui demande une Bible, un DVD, on est tout content. Parce que voilà, quelqu'un qui a 40 ans ou 60 ans, et qui tout d'un coup, son cœur d'enfant n'est quand même pas mort. Son cœur d'enfant a encore besoin de Jésus et de Dieu. Sur, peut-être, 15 000 personnes qui ont reçu les papiers, il y en a 6 qui répondent. Il y a, à travers ce flot de gens qui sont saccagés spirituellement, quelques-uns qui ont encore besoin de Jésus, de Dieu, et qui nous répondent quand on distribue le papier. C'est un petit peu comme quand les Américains ont envoyé sur l'atoll de Bikini, dans l'océan, il y avait un atoll qui s'appelait Bikini, une île. Ils avaient mis 50 cochons, ils ont tapé une bombe atomique, la même qu'à Hiroshima, Nagasaki. 49 cochons étaient morts, et il y en avait un, il se trimballait dans l'île, il était en bonne santé. C'est bien la preuve que Dieu fait ce qu'il veut. Le cochon était en bonne santé, il n'avait rien. Et il avait ramassé le pétard sur la tronche. Eh bien, moi je dis qu'aujourd'hui, quand on distribue dans l'Ongui ou l'Onguillon, n'importe où des feuilles, on sait qu'il y en a qui ont toujours une part dans leur cœur de ce désir d'enfant qui est resté. Et les chrétiens et l'Église sont là pour ceux-là. Comme Jonas était là pour Ninive. Je dis que nous avons un rôle très important et je ne suis pas pessimiste malgré le saccage spirituel organisé en Europe. Je ne suis pas pessimiste parce qu'il y a un appel de Dieu sur certains qui subsistent et il faut aller vers eux avec la parole de Dieu. Il faut annoncer. L'Église est semeuse de la parole. Alors, regardons. On a parlé de Jésus qui se révèle aux enfants. On a parlé de Ecclésiaste, ce désir d'éternité. Regardons dans Amos au chapitre 8. Amos. Je ne suis pas pessimiste, bien que je n'ai pas beaucoup d'estime pour notre civilisation. Techniquement, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais spirituellement, c'est une catastrophe. Alors, Amos, c'est un prophète du 8e siècle. Et regardons ce qu'il dit au chapitre 8. Donc le chapitre 8, versets 11 à 13, page 703. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les beaux jeunes hommes mourront de soif. Il s'agit d'une soif spirituelle. Donc, je pense que même la pire des sociétés, qu'elle était communiste, qu'elle a combattu la foi, ou matérialiste et pseudo-démocratique, comme en Europe, qui détruit la foi aussi, je pense qu'il y aura toujours des semences de la foi. Je pense qu'il y aura toujours, chez, de la part de Dieu, des actions pour que des hommes et des femmes aillent vers lui. Ils auront soif de la parole de Dieu. Ils auront faim de Christ. Malgré toutes les oppositions organisées, conscientes et inconscientes de la société. Regardons le psaume 8, verset 3. Je crois à la suprématie de l'appel de Dieu sur la force du péché. Je crois à la suprématie de la grâce sur le péché d'Adam et Ève. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants, c'est page 412, psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, donc à cette époque-là, c'est jusque 3 ans et demi qu'on prenait le sein. Il n'y avait pas les antibiotiques, donc on gardait le sein parce qu'il y a des anticorps. Hein. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quel adversaire ? Quel vindicatif ? Quel ennemi ? Mais l'entourage de l'enfant ! Ça me crève les yeux, moi, avec l'expérience que j'ai eue de courir partout. Et nous avons encore eu le cas dans cette semaine. Malheureusement. Dans notre école, deux enfants qui ont été retirés. Ça sera toujours une lutte. Le vindicatif, l'ennemi, est toujours très près. L'enfant qui a besoin d'entendre et d'expérimenter la parole de Dieu, c'est un enfant qui est travaillé par Dieu. Ce n'est pas un travers psychologique, une anomalie, un phénomène spécial, une hormone du cerveau, comme certains docteurs en psychologie disent. Jean, chapitre 6. Parce que si c'est une hormone du cerveau qui crée le besoin de Dieu, comme disent certains médecins, psychiatres, ah bien alors, qui a créé le cerveau de l'homme et son hormone ? Le singe dont on descend, il ne l'a pas. Donc si le singe ne l'a pas, d'où elle vient cette hormone ? Ce sont des arguments de bourrique. Pour se débiner encore une fois de plus de la question de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 6, verset en principe 63, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc c'est l'Esprit Saint qui touche l'enfant. La chair, l'humain qu'il a reçu de son père et de sa mère. Mais c'est physique, c'est matériel, psychologique, mais ça ne sert à rien. C'est par l'Esprit qu'il cherche la vie et qu'il trouve la vie. Au verset 65, ensuite, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc si un enfant veut venir à Jésus, c'est un don du Père. C'est des versets extrêmement importants. Maintenant, nous prenons Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 32. Je remercie le Seigneur qui, depuis tant d'années, m'empêche de dormir toute ma nuit. Je me relève et je lis. Parce que ce que je vous dis là, ça fait des semaines que je réfléchis. Parce qu'il y a des nuits où il faut que je me tourne vers le Seigneur. Si je ne me tourne pas, il y a des pensées folles qui viennent dans mon âme. Des pensées impures, des pensées de tous les genres, qui me fatiguent, qui ne servent à rien qu'à user ma vie et à me priver de ma paix. Mais quand je me lève et que je prends la parole de Dieu, et je mets à lire, je suis dans la paix du Seigneur. Et quand je vais dormir, je vais me reposer encore une heure avant que le soleil soit levé. Je suis déjà reposé par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me donne le gouvernail de mon âme, me donne la lumière, le chemin. Alors, dans Jean chapitre 12, au verset 32, et c'est page 819, « Quand j'aurai été élevé de la terre, donc cloué à la croix, ressuscité, élevé au ciel, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et vous savez que le mot « attirer » ici, dans le texte en grec, c'est « je séduirai ». Je séduirai. L'action de séduire, c'est quelque chose de terrible. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Coupe. Vous êtes chocolat bleu pâle. Vous êtes séduit. Vous êtes pris. Eh bien, le Seigneur peut me séduire et me conquérir et faire tomber les barrages de mon incrédulité, les barrages de mes raisonnements, les barrages de mes peurs, les barrages installés par mes parents, par mes éducateurs, par la société. Et je crois donc à l'autorité de Jésus ressuscité sur les âmes. Et je crois à la défaite de tout ce qui s'oppose à Christ. Même si ça prend encore un peu de temps, c'est le monde qui est perdant. C'est Christ qui est vainqueur. Et vainqueur spirituellement, pour donner la vie, pas pour nous détruire, pour nous donner la vie éternelle. Alors, le signe qui était donné à cette petite fille est un signe extrêmement précieux. C'est le signe de ce que Dieu l'aime et l'a vu déjà, tout de suite, dès sa jeunesse, dans sa proximité, dans une relation profonde. Et des éléphants alentour piétinent la porcelaine. Prenons le psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part. Vous vous rendez compte? David est là. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Voilà, il y a quelque chose en David, page 420, psaume 26, verset 8. Il y a quelque chose dans la nature même de David qui le traverse. C'est le cœur, c'est-à-dire quoi? C'est l'affection pour Dieu, c'est un sentiment d'amour pour Dieu, c'est un sentiment de vouloir le rencontrer et l'expérimenter. Et son père était un abruti. Il faisait confiance dans les 7 autres frères, des Rambo, des Gaillards. Lui, c'était le freluquet. On le mettait avec les moutons. Et c'était même pas marrant, parce que les moutons, dans la nature, il y a des lions et des ours. On l'exposait. On se disait, c'est pas grand-chose si on le perd. Et il avait un nom, le Pou. Son surnom, c'était le Pou. Eh bien, dans son cœur, il se passait quelque chose de formidable dans le silence de son cœur, avec ses moutons. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est pas mis, cherche ma face. Ça s'adresserait rien qu'à David. Cherchez ma face, c'est pour tout Israël. C'est pour tout le peuple qui sera derrière David un jour avec. Et toutes les nations qui seront avec David. C'est un commandement divin, universel. Cherchez ma face. Je cherche ta face. Ça, c'est la réponse de David au Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne me repousse pas avec colère. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Donc, il y a quand même le sentiment d'un péché, de choses qui sont imparfaites, et donc, parfois, de l'angoisse d'avoir rompu avec Dieu. Mais il ose le dire à Dieu. Donc, c'est qu'il a confiance à Dieu. et il laisse l'amour de Dieu se déverser sur lui. C'est ça qui est important. Et alors, regardez, pour dire que ce n'était pas marrant avec son père et sa mère. Verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alors, « Mon cœur et ma mère m'abandonnent. » Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui? Je m'en vais travailler à la banque de Luxembourg. Je pars à 6h du matin, je rentre à 7h du soir. L'autre, il part à 7h30, il dépose à la crèche ou à 6h, il rentre à 6h. Et monsieur, l'enfant est devant la télévision, etc., etc. C'est pas un abandon, ça? Et sur le chemin qui va de Thionville à Luxembourg, ou de Florentville à Luxembourg, ou de Virton à Luxembourg, le long de la route, vous trouvez des crèches. Pourquoi c'est des crèches? Pour déposer le paquet. Elle reprend au soir. À cette époque-là, c'était pas ça, mais il était avec les moutons tout seul. C'est pas neuf sous le soleil. Parce que monsieur Isaïe, le patron, qui avait sept gaillards costauds, ben il se plaisait à avoir beaucoup de troupeaux, beaucoup de cultures, et il était bien occupé. On va le fourrer là-bas avec les moutons, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il nous embête parce qu'il nous parle de Dieu, ce petit-là. Il nous embête parce qu'il a toujours besoin de Dieu. C'est bizarre. C'est un vrai casse-pied. Alors, on ne va plus l'entendre. Et que fait cet enfant? Que fait ce petit David? Eh bien, il pleure. Il cherche la consolation auprès de Dieu. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Il n'y a pas de lien profond. Il n'y a que de la façade. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants, est-ce que ce n'est pas la même chose? Je crois que les enfants d'aujourd'hui qui naissent ont vraiment besoin de Dieu. L'astuce du diable, c'est d'avoir créé la tablette, l'ordinateur, la télévision et tout ça. Parce que l'enfant, dans la solitude de son cœur, peut parler à Dieu et recevoir des appels de Dieu. Il peut vivre avec Dieu, il en a la capacité, peut-être beaucoup plus que les adultes. Mais voilà l'astuce du diable, c'est d'avoir fourni tous ces pièges de l'âme. Aujourd'hui, faites attention dans vos familles à tous ces engins. Quand des enfants ont besoin de Dieu, ne les distrayons pas de Dieu. Ne les occupons pas avec des ersatz, des bricoles, des attrape-nigauds. Parce que je vous dis, on en fera des révoltés, on en fera des amers. Ils ne voudront plus rien faire pour la société parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à la société. Ils n'ont rien à cirer de la société. Parce que la société n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Il n'y a pas eu la connexion de l'âme avec l'enfant. C'est ça qui compte. Alors, je reprends Apocalypse chapitre 3, verset 20. Moi, aujourd'hui, je pense qu'un couple chrétien, un homme et une femme qui aiment le Seigneur et qui prient et qui ont des enfants, ils doivent toujours regarder à la connexion Internet que Dieu a mis, Internet entre Dieu a mis avec leur enfant, en direct. Et ne pas se croire toujours indispensable et premier. Dieu parle au cœur de l'enfant et il faut s'arranger pour écouter ce que Dieu fait dans l'enfant et nourrir l'âme de l'enfant au fur et à mesure. La meilleure connexion Internet, c'est le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà donc le projet de Jésus pour tous ceux qui l'ont mis de côté. Il est derrière la porte, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. On entend sa voix. Pour ça, il faut la lire. Il faut écouter, il faut ouvrir la porte. Il va rentrer. Et on va partager. On va passer le reste de sa vie ensemble, en communion, en communauté de vie. Voilà. Voilà le projet de Dieu. Et l'enfant a besoin de ça. Il voit bien que la terre n'est pas en communion, que les gens ne sont pas en communion. Il a vite fait le tour. Les enfants ont vite fait le tour de voir ce qui se passe dans le monde des adultes. Paf. Alors, installons Jésus à notre table et laissons-le dans notre vie. Luc 24. Luc 24, versets 28 à 30. Est-ce que ce n'est pas ça le départ du christianisme? Et ça sera toujours le départ du christianisme. C'est l'accueil de Jésus dans nos vies. Humblement. Luc 24, versets 28 à 30. Page 805. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc il s'agit des deux disciples qui reviennent de Jérusalem, qui sont déçus, qui vont au village d'Emmaüs. Jésus a parlé avec eux, etc. Il les a écoutés, et puis il lui fait semblant de continuer, et il va faire noir. À 6h15, il fait noir, donc il est 6h. Et qu'est-ce que disent ces hommes? Parce qu'il y a quelque chose en eux. La connexion Internet marche bien. Leur cœur est disposé à ouvrir la porte. Leur cœur est disposé à ouvrir la porte et à l'accueillir. Et regardez, regardez comment ça se passe. Versets 28 à 30. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent et en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Oui, notre société est sur son déclin. Oui, tout est sur son déclin. Mais, après la nuit, ça sera le jour. Après le déclin, ça sera le renouveau. Ça sera le royaume de Christ. Et ceux qui auront pris le temps de rester à table avec lui seront dans le royaume. Parce qu'ils sont rentrés dans le repas avec le Christ le temps que le Christ venait à leur porte, à leur vie. Eux, de commun accord, tous les deux ont dit, reste avec nous. Je pense qu'un père, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, tout le monde doit s'examiner pour avoir un comportement, le seul qui compte pour Dieu, celui de la vérité, pour ne pas piétiner les âmes des enfants par nos peurs, nos incrédulités, nos calculs, nos fausses sagesses, nos faux respects des autres, etc. L'âme de l'enfant est sacrée. L'avenue de Jésus dans la vie d'un enfant, c'est sacré. Et il est à sa porte. Et si je ne prends pas mes responsabilités, j'ai fermé la porte à clé pour que Jésus ne rentre pas et que l'enfant n'aille pas le voir. Il faut laisser Jésus s'installer dans nos maisons, dans nos vies et surtout dans nos enfants et petits-enfants. Est-ce que c'est si facile que ça? Si c'est impossible, parce qu'on rencontre des obstacles majeurs parfois, des oppositions, ben si c'est impossible, il faut se mettre à genoux et prier des heures. Il faut prier, jeûner, il faut intercéder, il faut prier. Rappelez-vous que Josué, avec les Hébreux, ont fait en silence, pendant 7 jours, le tour de la ville. En silence. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours avec la trompette. Et tout s'est écroulé, ils ont pris Jéricho, tout était à terre. Notre civilisation n'est pas plus solide que les murs de Jéricho de cette époque-là. Notre civilisation n'est pas plus solide. La prière et l'intercession laissent toute la place à Jésus-Christ pour venir avec son autorité. Si nous prions, nous intercédons, nous demandons au Seigneur de venir avec autorité, là où nous n'en avons pas. Là où souvent on se moque de nous parce qu'on est chrétien, on nous néglige, on ne fait pas attention à notre foi. Mais dans le silence de la prière, si nous réclamons l'autorité de Christ, c'est chose bizarre que quand on passe dans la rue, vous demanderez à Dieu pour moi un signe. C'est bizarre que la fois d'après, c'est la fois d'après, oui, priez pour moi. C'est bizarre. Pourquoi? C'est quand même bizarre. Parce que celui qui ne prie pas est dérangé par celui qui prie. Et celui qui est dérangé, eh bien, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Si nous ne pouvons pas déranger les gens autrement que par la prière, il faut prier. Prier. Il faut intercéder. Il faut demander à l'autorité de Jésus de pousser les portes. Dans toutes les périodes de réveil spirituel, à travers le monde entier, ça a toujours commencé par l'intercession et la prière. La prière à Jésus-Christ peut arrêter la sorcellerie, peut arrêter la foi matérialiste, peut arrêter la pensée marxiste. La foi en Jésus-Christ ressuscité peut arrêter les péchés. Chez des grands pécheurs comme des petits pécheurs. Et elle peut ouvrir des portes au cœur des enfants. Donc notre première place, les amis, oui, prions. Prions qu'il y ait des signes pour tous ceux qui pour le moment en ont mais ne les voient pas. Prions, soyons à l'œuvre dans la prière. Avouons notre incapacité à Dieu, avouons notre petitesse, confessons la grandeur et l'autorité de Jésus. Il est capable d'agir, il est capable de délivrer encore aujourd'hui. Dans les Lamentations, Jérémie qui a vu toute la ville être détruite, toute la ville a été détruite par Nebuchadnezzar, tout ce peuple n'avait pas accepté son enseignement. Eh bien, dans les Lamentations, Jérémie dit quelque chose de formidable. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Je lis par exemple au chapitre 2, page 624. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent. Chapitre 2, verset 11. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Regardez comme il est malheureux. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? Alors, il y a évidemment un cri d'espérance formidable, une confession de la grande autorité de Dieu. Regardons d'abord au chapitre 3, le verset 40 à 42. Recherchons nos voies et sondons-les, retournons l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est la prière. Nous avons péché, nous avons été rebelles et tu n'as pas pardonné. Ben non, on ne va pas pardonner au premier coup comme ça et puis qu'on se moque après de lui. Tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Donc, pendant tout un certain temps, il y a des gens qui font des prières ici en Europe et il n'y a pas d'accès au ciel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ne veulent rien changer dans leur vie pour Dieu. Ils n'offriront pas un gramme de leur vie à Dieu. Ah oui, ils veulent bien quelque chose de Dieu. Dieu, lui, doit s'impliquer, pas eux. Et donc, ils ferment accès à la prière. Mais, chez Jérémie, il y a un miracle. 31, c'est le contraire.
Verset 31 du chapitre 3. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes.
Voilà. Donc il ne rejette pas toujours. Lorsqu'il afflige, il a compassion. selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Chapitre 3, versets 31 à 33. Je vois dans les champs, hein, comme je vais au jardin, je vois les paysans qui passent avec les machines. Les jeunes paysans, ils ont des plus gros tracteurs les uns que les autres et tout. Ils ont des dettes colossales en fonction. Mais ils ont semé, ils ont tout préparé. Et ils attendent, c'est la nouvelle lune, ils attendent qu'il tombe de la pluie. Et s'il ne tombe pas de la pluie, ça dure encore. Leurs emprunts à la banque et tout le reste. Leur dimanche qui passe à travailler, à ne jamais honorer Dieu. Est-ce que dans l'année 2019, il faut que je fasse le tour des paysans, faire une réunion avec eux, de jeûne et de prière, à genoux, demander pardon à Dieu, d'avoir craché sur la figure de Dieu, tous les jours de leur vie, parce que la nature, ils ne la regardent plus. Ils regardent leur tracteur et leur compte en banque. Leurs exploits économiques et agricoles. Ils sont dévorés d'angoisse. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'on va avoir une bonne récolte? Ils sont dévorés d'angoisse. Mais ils sont durs, ils ne veulent pas le montrer. Il n'y a personne qui flanchera. C'est comme au temps de Jérémie. Alors, dans le chapitre 3, versets 55 à 57, « J'ai invoqué ton nom, Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. » Nous voyons ici l'expérimentation d'un prophète qui est en présence de Dieu et qui a la bénédiction de Dieu, malgré l'hostilité qui l'entoure. Voilà, les amis, dans les Lamentations de Jérémie, on voit que Dieu peut toujours sauver Israël. Et la preuve qu'il tient parole, c'est qu'après 26 siècles où Israël n'avait plus de terre et ne parlait plus l'hébreu, Israël, en 1948, a reçu le titre de nation, parle hébreu, après 26 siècles sans parler l'hébreu, a retrouvé une terre, et toutes les tribus du nord et du sud, les 12 tribus sont réunies là-bas. Et toutes les richesses des nations viennent sur eux. La plupart de tous les brevets technologiques sont faits en Israël. N'est-ce pas une bénédiction? Trois ans après la fin des camps de concentration, où on les a tous calcinés, il y avait l'État d'Israël. Dieu ne peut pas faire des miracles. Alors, si cet exemple d'Israël nous invite à réfléchir, nos enfants peuvent connaître un grand miracle, un grand réveil spirituel. Un grand réveil. On peut avoir des centaines, ou peut-être des milliers d'enfants en Europe qui croient en Jésus-Christ, qui se donnent à Jésus-Christ, malgré les têtes carrées des adultes, malgré le péché des adultes. Parce que quand Israël a été recréé, c'était tous des gamins, des adolescents, parce que tous les parents ont été calcinés dans les camps de concentration. Pourquoi il n'y aurait pas chez les beaux jeunes gens et les belles jeunes filles, Amos chapitre 8, verset 11, cette soif qui tout d'un coup gagne l'Europe et donne à la jeunesse un vrai amour de Jésus-Christ avant son retour. Moi, je crois qu'il ne faut pas être défaitiste. Mon jugement sur la société est très dur, mais mon espérance dans le Seigneur est plus grande. Il ne faut pas condamner ce que Dieu peut faire. Il ne faut pas en douter. Le Seigneur est grand. Nous sommes des intercesseurs, des adorateurs. C'est dans l'humiliation de la prière de tous les jours qu'il faut attendre l'action de Dieu pour le salut de tous les nôtres. Amen. Qui veut chanter et prier ?